Oh, faut reconnaître. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein.
J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola.
Salut, c'est Pedro. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aboire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un breuvage qui nourrit tous les fantasmes. Celle que l'on appelle la fée verte ou la bleue. Cet alcool qui rend prétendument fou, l'absinthe. On va se concentrer aujourd'hui sur l'origine de l'absinthe et son histoire. Les origines précises de l'absinthe sont incertaines. En Égypte ancienne, l'usage médical d'extrait d'absinthe est mentionné dans le papyrus Ebers, entre -1600 et -1500 avant Jésus-Christ. Pythagore et Hippocrate, eux, parlent d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé, son effet aphrodisiaque et sa stimulation de la création. Les Grecs anciens consommaient également du vin aux extraits d'absinthe. Les vins d'absinthe dans lesquels les feuilles d'absinthe sont fermentées, en même temps que les raisins, sont documentés pour le XVIe siècle. Ils avaient la réputation d'être des remèdes particulièrement efficaces pour l'estomac. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que l'on retrouve la première trace attestée d'absinthe distillée contenant de l'anis vert et du fenouil. La légende veut que ce soit le docteur Pierre Ordinaire, médecin français qui prit la nationalité suisse, qui a inventé la recette en 1792. Cette recette devrait également beaucoup à une herboriste suisse du canton de Neuchâtel, Henriette Henriot. Le major Dubiède acquiert la recette auprès de la mère Henriot en 1797 et ouvre, avec son gendre Henri-Louis Pernaud, la première distillerie d'absinthe à Couvert en Suisse. On trouve dans le livre de comptes de ce dernier la première recette d'absinthe apéritive, datée de 1797. Ils fondent en 1798 la première distillerie, la maison Dubide père et fils. En 1805, Henri-Louis Pernaud prend ses distances avec son beau-père et monte sa propre distillerie à Pontarlier, Pernaud fils, qui deviendra la première marque de spiritueux français. Pendant une trentaine d'années, l'absinthe reste une boisson régionale essentiellement consommée dans la région de Pontarlier, qui devient la capitale de l'absinthe. En 1900, 25 distilleries emploieront 3000 des 8000 pontissaliens malgré la lutte contre l'alcoolisme menée par le député de la région, Philippe Grenier. En 1830, les soldats français colonisent l'Algérie et les officiers leur recommandent de diluer quelques gouttes d'absinthe dans l'eau pour faire passer les désagréments de la malaria et de la dysenterie. Les soldats, à leur retour en France, popularisent cette boisson à travers tout le pays. Titrant 68 à 72 degrés dans la bouteille, l'absinthe est alors diluée dans des verres hauts et larges. À un volume d'absinthe sont ajoutés 6 à 7 volumes d'eau fraîche versés goutte à goutte sur un sucre posé sur une cuillère percée, elle-même placée sur le verre afin d'exhaler ses arômes. On y reviendra plus tard. D'autres amateurs pratiquent une purée, une dilution moindre jusqu'à la boire pure. Relativement chère au début des années 1850, elle est surtout consommée par la bourgeoisie, devenant la fée verte des boulevards. Pourquoi la fée, on ne sait pas vraiment. Peut-être pour son côté hallucinogène. Puis, sa popularité ne cesse de grandir jusqu'en 1870, début de la guerre franco-prussienne, où l'absinthe représente 90% des apéritifs consommés en France. En 1860 à Avignon, Jules-François Pernaud fonde la société Jules Pernaud, d'abord spécialisée dans l'extraction de la garance, une autre plante, qu'il transforme en 1872 en société Pernaud père et fils. Puis, à partir de 1884, il se lance dans la distillation de l'extrait d'absinthe dans son usine de Montfavet. La production d'absinthe augmente, entraînant une diminution des prix et une popularité grandissante. La période de 1880 à 1914, début de la Première Guerre mondiale, marque une explosion de la production et une chute drastique des prix. La production française passe de 700 000 litres en 1874 à 36 millions de litres en 1910. Des absinthes de mauvaise qualité, surnommées sulfate de zinc en raison de la coloration obtenue grâce à ce composé chimique, prolifèrent. Un verre d'absinthe est alors moins cher qu'un verre de vin. L'absinthe connut un vif succès au 19e siècle, mais elle fut accusée de provoquer de graves intoxications. Elle contenait entre autres du méthanol, un alcool neurotoxique qui, passé certains seuils, était probablement la cause des troubles constatés à l'époque, parce qu'on ne contrôlait pas les taux et on n'y appliquait pas de contraintes. Ces intoxications sont décrites notamment par Émile Zola dans L'Assommoir, et ont probablement alimenté la folie de certains artistes de l'époque, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Elle est également connue pour son effet abortif. Pourtant, le bouc émissaire qui sera accusé de tous les maux ne sera pas le méthanol, mais la thuyone. Des études de l'époque vont accuser ce composant présent dans l'absinthe d'être à l'origine des problèmes sanitaires liés à la fée verte. Dès 1875, Les ligues anti-alcooliques, groupées autour de Louis Pasteur et de Claude Bernard, qui seront à l'origine de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, les syndicats, l'Église catholique, les médecins hygiénistes, la presse se mobilisent contre l'absinthe qui rend fou. En 1906, la Ligue nationale française anti-alcoolique recueille 400 000 signatures dans une pétition. En 1907, une grande manifestation a lieu à Paris à l'instigation du journal Le Matin et soutenue par les ligues anti-alcooliques. Leur mot d'ordre ? Tous pour le vin, contre l'absinthe. En 1908, le groupe anti-alcoolique qui s'est constitué au Sénat veut faire voter trois mesures. Interdiction de l'absinthe, limitation du nombre des débits de boissons, suppression du privilège des bouilleurs de cru. Ceci conduisit à son interdiction dans de nombreux pays. En France, par une disposition préfectorale du 16 mars 1915, prise sous l'autorité de l'état de siège, interdiction qui dura jusqu'au 18 mai 2011. En Suisse, du 7 octobre 1910 au 1er mars 2005. Car les ligues de vertu disent d'elles qu'elle rend fou et criminel, fait de l'homme une bête et menace l'avenir de notre temps. En toute simplicité, quoi. En réalité, il est clairement dit dans le projet d'interdiction de l'absinthe en France que la boisson est interdite pour lutter contre l'alcoolisme. Lorsque la production d'absinthe commença à être la cible d'une vive campagne contre ses méfaits, dès 1907, Jules-Félix Pernod avait succédé à son père à la tête de l'entreprise familiale. Quand sa production fut interdite par une loi du Parlement français le 16 mars 1915, il fut le premier à se reconvertir en fondant en 1918 la marque Anis Pernod, qui produira le premier pastis commercialisé. Mais ceci est une autre histoire. Le 2 novembre 1988, un décret signé par Michel Rocard autorise et réglemente la présence de thuyone, donc la principale molécule de l'huile essentielle d'absinthe, dans les boissons et l'alimentation, ce qui permet techniquement de produire à nouveau de l'absinthe en France. En 1999, la première absinthe française depuis 1915 est produite, la Versinthe verte, qui contient de la grande absinthe. Oui, parce qu'en fait, il y a une petite et une grande absinthe, mais on va pas trop s'arrêter sur ce genre de détails. Son apparition et son étiquetage, où il est bien indiqué absinthe, met en évidence un hiatus entre le décret européen de 1988 et l'interdiction de l'absinthe en France de 1915, toujours en vigueur. Plutôt que d'abolir cette loi, le gouvernement part au plus pressé en votant un aménagement du décret et en attribuant une nouvelle appellation légale à l'absinthe. Spiritueux aromatisé à la plante d'absinthe, et en complétant la réglementation européenne, donc en limitant à 35 mg par litre la thuyone. Depuis le 1er mars 2005, la distillation de l'absinthe est à nouveau autorisée en Suisse, afin de pouvoir demander une AOC et ainsi protéger l'appellation, à condition entre autres que la teneur en thuyone ne dépasse pas également 35 mg par litre, donc comme en France. L'absinthe, comme autrefois, titre entre 45 et 90 degrés. En France, elle est produite notamment dans les distilleries de Fougerolles dans les Hauts-de-Saône, la distillerie Peureux, à Pontarlier dans le Doubs, distillerie Pierre-Guy de Pontarlier, ville dont elle fit la richesse jusqu'à l'interdiction de 1915, à la Cluse et Mijoux, la distillerie Les Fils d'Émile Pernod, à Saumur par la distillerie Combier, à Rennes par la distillerie Awen Nature et à Vichy par la distillerie Muse de France. Une des plus vieilles distilleries de France, la distillerie Chéri Rocher, située en Isère, produit également 7 absinthes différentes. Et il existe également 2 autres distilleries en Provence. Elle est notamment de nouveau fabriquée au Val de Travers, région de Suisse romande, berceau de l'absinthe, dans une douzaine de distilleries, ainsi qu'à Fénin, au Val de Ruse, par la distillerie La Rusée. En 2000, les distilleries et domaines de Provence lancent l'absinthe. En 2001, François Guy, 4e génération de la distillerie Pierre-Guy de Pontarlier, qui distillait avant l'interdiction, lance la première absinthe distillée et colorée naturellement, redonnant ainsi à l'absinthe de Pontarlier ses lettres de noblesse. La préparation de l'absinthe est qualifiée de rituel en raison de nombreux accessoires spécifiques, nécessaires à son élaboration ainsi qu'à son aspect codifié. L'absinthe pure est tout d'abord versée dans un verre spécifique sur lequel on place une cuillère, appelée pelle à absinthe. On place ensuite un demi-sucre ou un sucre sur la cuillère, sur lequel on verse de l'eau glacée au goutte à goutte. Comme le pastis, l'absinthe se dilue dans 3 à 5 fois son volume d'eau. Au moment où le tout premier volume d'eau vient troubler la liqueur, une discrète émanation de couleur bleue peut être visible et a été à l'origine de la dénomination la bleue, l'autre nom donné à l'absinthe. La manière de préparer l'absinthe joue un rôle capital dans son goût final en permettant aux arômes de plantes de se libérer et de prendre de l'ampleur face aux autres arômes. Durant ce processus, les ingrédients non solubles dans l'eau, principalement ceux de l'anis vert étoilé, ainsi que le fenouil, forment des émulsions, c'est ce qui trouble l'absinthe. Avec l'accroissement de la popularité de la boisson au 19e siècle, l'usage de la fontaine à absinthe se répandit. Cette fontaine particulière permet de verser de l'eau goutte à goutte, sans avoir à le faire à la carafe, ainsi que de servir un grand nombre de verres à la fois. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir une démonstration par le distilleur Awen Nature lors de la fête des remparts à Dinan. Traditionnellement, le sucre ne se brûle pas. Ce n'est qu'en 1990 dans les discothèques tchèques qu'un rituel où le sucre est brûlé est apparu. C'est probablement pour attirer l'attention des clients sur cet apéritif. Aujourd'hui, l'absinthe entre également dans la composition de nombreux cocktails. Pour l'anecdote, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, le Val de Travers Suisse et la ville de Pontarlier en France ne sont situés qu'à une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre. La France et la Suisse ont donc décidé de proposer un itinéraire touristique reliant ces deux sites qui a été nommé la Route de l'Absinthe. Itinéraire qui peut être pratiqué à pied, en vélo ou en véhicule motorisé et qui permet de découvrir des distilleries, des champs d'absinthe, des musées et puis aussi toutes les autres spécialités régionales. Je vous le disais en préambule, l'absinthe, cet alcool censé rendre fou, a nourri pas mal de fantasmes. Et on le retrouve énormément dans les arts, dans la peinture notamment. Dans Le buveur d'absinthe, titre du tableau de Édouard Manet, L'absinthe, titre du tableau d'Edgar Degas, La buveuse d'absinthe de Félicien Rops, L'absinthe de Vince Van Gogh, L'absinthe ou Portrait du poète Cornuti de Pablo Picasso, et je vais pas vous faire toute la liste. On la trouve également dans la littérature, évidemment chez Émile Zola, je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Edmond et Jules de Goncourt, chez Ernest Hemingway bien sûr, chez Marcel Pagnol. On va le retrouver également dans la chanson, chez Barbara, chez Damien XVI, chez Eddie de Preto, L'Homme Pâle, Seth Gecko, Nine Inch Nails. Pareil, je vais pas vous faire toute la liste. Évidemment, on la retrouve également en poésie et au cinéma, dans le film Rimbaud-Verlaine, dans le film French Cancan, dans Dracula, dans Moulin Rouge, dans From Hell, dans Van Helsing. Elle s'invite même à la télévision, dans la série Nip Tuck, dans American Horror Story, dans l'excellente série BoJack Horseman, dans la série Highlander, ou pour ceux qui aiment bien le chip TF1, dans RIS Police Scientifique. Pour conclure, derrière cette espèce de mythe de la fée verte, de cet alcool qui rend fou, bah, y a un spiritueux qui est plein d'histoires, et qui commence tout juste à se faire réhabiliter. Les clichés ont la dent dure, vous le savez, donc ça prendra sûrement encore un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à demander à vos barman de vous préparer des trucs sympas avec de l'absinthe, je suis sûr que certains auront de très bonnes idées, et vous verrez que bah, c'est pas si fort que ça, et que ça rend pas complètement taré. D'ailleurs, il est temps de passer au cocktail et je vais vous donner une recette. Le Green Beast. Alors le Green Beast, vous pouvez le préparer dans un très grand récipient, comme une sorte de ponche quand vous recevez du monde, ou bien vous pouvez le faire pour vous dans un simple verre Tumbler Collins. Donc un verre Tumbler Collins, c'est des verres à cocktail grands, assez grands, droits, qui mesurent entre 300 et 400 ml. Donc pour réaliser un Green Beast, il vous faudra 30 ml d'absinthe, 30 ml de jus de citron vert, 30 ml de sirop de sucre et un petit peu d'eau plate. Pour la garniture, il faudra également 4 tranches de concombre, ça rajoute à la fraîcheur un petit peu, et puis bah, pensez à prendre des glaçons avec vous. Donc vous prenez votre verre type Collins, vous le remplissez de glaçons, vous glissez à différents niveaux du verre 4 tranches de concombre, et vous versez tous les ingrédients dans le verre. Vous finissez par toper à l'eau, donc toper c'est venir rajouter un petit peu d'eau sur le dessus. Ensuite, vous mettez un grand coup de cuillère pour mélanger tout ça. Vous verrez, c'est super frais, plutôt bon, et moi qui aime pas le concombre, eh ben, c'est une bonne façon de m'en faire consommer. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui encore vous aurez appris quelque chose, que vous aurez la curiosité d'aller réaliser le cocktail. Pour ma part, je voulais vous annoncer que nous sommes au 10e et dernier épisode de À Boire pour cette première partie, puisque je reviendrai au mois de septembre. D'ici là, je vous proposerai sûrement quelques petites surprises, n'hésitez pas à suivre sur Twitter, sur Facebook. Je travaille sur 2-3 projets pour le printemps, pour l'été. Je vais pas vous laisser tout seul, je vais pas vous foutre la paix. En attendant, consommez moins, consommez bien. Et à très bientôt, salut.